Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Fut l'année du centenaire de la Révolution russe. À cette occasion, Pierre Dardot, vous avez écrit avec Christian Laval un livre intitulé « L'ombre d'octobre, la Révolution russe et le spectre des soviets ». Cette période de l'histoire et ses effets politiques nous paraissent clos depuis la fin du XXe siècle. En quoi aujourd'hui cela a-t-il une importance de se pencher sur cet événement de 1917 pour la société actuelle et pour ceux qui veulent la changer ?
Alors c'est une question qui a été exactement la question que nous nous sommes posée en rédigeant le livre, c'est-à-dire nous nous sommes demandé pourquoi. Et dans le quatrième de couverture, on indique que c'est précisément à cette question-là qu'on entend répondre. Certainement pas par intérêt purement historique. Certainement pas pour retracer ce qui s'est passé plus fidèlement que d'autres. Il y a des ouvrages d'historiens qui sont très précieux, très bien, et qui ont fait le travail bien avant nous. Donc on s'en est inspiré, on s'est appuyé dessus. Mais notre propos n'est pas du tout historique, c'est un propos qui est politique. C'est-à-dire que nous partons en fait du présent dans lequel nous sommes. Et la question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que ça peut nous apprendre concernant le présent dans lequel nous sommes, auquel nous appartenons et dans lequel nous avons à agir et à penser. Et c'est une question donc qui est assez sensiblement proche de celle que Foucault posait à partir d'une lecture d'un petit texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?». La question qu'il posait, c'était justement qu'est-ce que c'est que notre présent ? Qu'est-ce qui fait que notre présent est singulier ? Et nous, nous nous sommes posé cette question-là à propos d'octobre 17. Parce que nous savons, par expérience, parce que nous avons appartenu à une génération qui s'est posé la question dans ces termes-là, que des gens au XXe siècle ont pensé les révolutions, ou la révolution, avec un grand R, un R majuscule, à partir du supposé modèle d'octobre 1917. Et c'est précisément pour nous libérer complètement de ce soi-disant modèle que nous pensons qu'il est nécessaire de revenir de façon critique sur cette expérience, pour comprendre la différence, voire même, c'est plus que la différence, c'est la contradiction qui existe entre ce supposé modèle et puis d'autre part l'expérience qui est faite aujourd'hui des communs dans de multiples domaines, que ce soit les communs informationnels ou les communs de connaissances, que ce soit les communs agricoles, les coopératives, tout ce qui peut se faire aujourd'hui en matière de communs, les communs politiques, municipaux, dans différentes villes en Europe et dans le monde, tout cela n'a rien à voir avec ce modèle du bolchevisme et du léninisme qui est celui d'octobre 1917. Précisément pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'apparaît comme étant un des traits remarquables des expériences de communs qui se déroulent dans le monde, c'est l'exigence d'une démocratie égalitaire, profonde et radicale, qui est complètement incompatible avec le modèle du bolchevisme.
D'accord. Alors, dans votre livre, vous utilisez, dans l'introduction, la métaphore de l'ombre et de la lumière. Et dans la Révolution russe, vous semblez opposer ainsi donc, la vraie révolution, celle des soviets, à la prise du pouvoir en octobre par les bolcheviks. C'est bien
oui,
ça.
C'est une opposition qui est assez importante, parce qu'il est convenu de parler de révolution d'octobre. Et souvent, même les gens qui sont très critiques à l'égard du bolchevisme et du léninisme reprennent à leur compte, sans s'en rendre compte, l'expression de révolution d'octobre, en mettant un O majuscule à octobre, sans s'apercevoir que c'est déjà une concession. Et pour nous, c'est une concession terminologique qui est de trop, ce qui fait que nous indiquons dans le livre, de manière très très formelle, que si nous reprenons cette expression, ça n'est pas pour la faire nôtre, du point de vue du sens, c'est parce que c'est devenu une convention qui est assez partagée. Mais en réalité, on devrait distinguer entre février et octobre, en effet. Et février et octobre, ça n'est pas du tout la même chose. Parce que février, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une irruption spontanée. Vous avez des institutions d'autogouvernement qui sont les soviets, qui sont donc littéralement, si on traduit le mot russe, des conseils. Vous avez des conseils, donc des soviets, de députés, ouvriers, soldats et paysans qui couvrent toute la Russie. Et vous avez une aspiration égalitaire extraordinaire qui fait que février, c'est un moment où la société russe réinvente son imaginaire. Vous avez un imaginaire social, un imaginaire collectif extraordinaire qui, pour la première fois, fait complètement irruption comme ça dans l'histoire qui est pluriséculaire, qui est celle de l'Empire russe et du tsarisme. Et vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'un espoir extraordinaire. C'est précisément cet espoir qui va non seulement se trouver déçu, mais étouffé par ce qui va se passer ensuite. Parce que octobre, c'est une séquence qui est tout à fait différente. Souvent, les gens présentent octobre, les gens, pas tous les gens, mais de manière intéressée, ils présentent octobre comme étant la continuation logique, naturelle de février, et même souvent, les partisans des bolcheviks notamment, présentent octobre 1917 comme étant la vérité de février. Finalement, février 1917 aurait accouché de sa vérité avec la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre. Mais nous pensons, nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui ont dit cela avant nous, nous pensons que justement octobre, ça n'est pas du tout la vérité de février, c'est au contraire la négation de l'aspiration égalitaire qui s'est fait jour de manière publique, de manière extrêmement vraiment profonde dans toute la société russe, et que par conséquent il s'agit là non pas d'une continuation naturelle, non pas de la vérité de février, mais de la négation de février. Une aspiration démocratique qui se trouve confisquée, et puis ensuite vidé complètement de son contenu, parce que les soviets, les conseils, sont liquidés en l'espace de quelque chose comme 4 ans par les bolcheviks qui ont pris le pouvoir précisément le 25 octobre. Mais c'est une prise de pouvoir par un parti. C'est tout à fait totalement différent.
Alors pour prolonger justement cette question, une certaine tradition considère que la révolution russe s'est développée en deux temps, février 17 comme révolution bourgeoise et octobre 17 comme la vraie révolution sociale. Vous considérez, vous l'avez dit, que ce schéma est faux, et pour vous l'élément révolutionnaire clé, c'est l'apparition des soviets. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce que sont ces soviets ?
Oui, parce que dans l'histoire russe, c'est un mot qui a une signification très précise. C'est la signification de conseil. Soviet, ça veut dire conseil. Donc quand on dit soviet, ça veut dire conseil d'ouvriers, de soldats, de paysans. Et ce sont ces institutions qui émergent d'une manière assez soudaine, il faut le dire, en 1905. Donc la première véritable révolution contre l'autorité tsariste, l'autocratie tsariste. 1905, vous avez un soviet très important à Petrograd, mais dans toutes les grandes villes du pays, vous avez des soviets, et même dans des villes qui ne sont pas très grandes, vous avez aussi des soviets. Et les gens se sont habitués, à partir de cette expérience-là, à vivre ça comme étant une possibilité de prendre leurs propres affaires en main. C'est-à-dire que les soviets, en fait, la véritable valeur irremplaçable des soviets, c'est que ce sont des institutions d'autogouvernement. L'autogouvernement, l'idée que c'est aux citoyens, aux ouvriers, aux paysans, aux soldats, de prendre en main leurs propres affaires et de gouverner la société sans remettre ce pouvoir entre les mains d'une petite minorité, même si c'est un gouvernement qui se prétend progressiste. Bon. Et là, c'est quelque chose de fondamental. Or, si on considère ce qui s'est passé ensuite, justement, octobre, c'est le début d'un processus de liquidation des soviets. C'est-à-dire que les soviets sont repris en main par les autorités qui sont nommées par le parti bolchevique, et ces soviets, petit à petit, sont vidés complètement de leur contenu. C'est-à-dire que on va faire en sorte que des fonctionnaires du parti prennent directement en charge la direction des soviets, les anémies, c'est-à-dire les vident complètement de leur vie politique interne. Ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en une seule journée, mais c'est quand même un processus qui commence directement à la suite de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Les bolcheviks ont pris le pouvoir au nom des soviets, mais en fait contre les soviets.
Alors justement, c'est un point qui serait intéressant de développer. Si octobre 17 n'est pas une révolution, c'est un coup d'État. Et donc, selon vous, Pierre, c'est un coup d'État contre les soviets ?
Oui, alors la formule de coup d'État est une formule qui doit être pesée. C'est pas une formule qu'il faut prendre à la légère. Certains ont un peu tendance à la manier comme ça, comme s'il s'agissait d'une sorte d'insultes. Ou... Non, il faut vraiment considérer ce que ça signifie. Un coup d'État, nous on est habitué à considérer que les coups d'État, ce sont des coups d'État opérés par l'armée, qui détrônent des civils, qui occupaient des responsabilités à la tête de l'État antérieurement, etc. Parce qu'on a une longue habitude, malheureusement, de ces coups d'État-là. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un coup d'État au sens où vous avez un organe qui s'appelle le Comité militaire révolutionnaire, qui dépend directement du Soviet de Petrograd, qui est un organisme de défense. Normalement, c'est un organisme qui a été mis en place pour défendre les Soviets, pour permettre que les Soviets puissent justement tenir leur congrès. Et c'est un organisme qui est instrumentalisé par le parti bolchevique pour préparer l'insurrection. Mais l'insurrection, c'est l'insurrection armée, conduite, préparée techniquement, conduite et réalisée de bout en bout par le seul parti bolchevique. Donc, et le coup d'État, ça fait référence à quelque chose de très particulier. Le 25 octobre au matin, Lénine, qui est à l'Institut Smolny, est amené à prendre un bout de papier et il rédige une proclamation. Et dans cette proclamation, il dit « Le gouvernement provisoire est renversé, tout le pouvoir appartient au comité militaire révolutionnaire. » Il n'est absolument pas mandaté pour ce faire. Il usurpe, c'est un acte d'usurpation. Il fait comme si c'était un acte qui émanait du comité militaire révolutionnaire, qui ne s'est absolument pas réuni. Nous sommes le 25 octobre à 10h du matin. Il faudra attendre 22h40 pour que le deuxième congrès des soviets se tienne. Il faudra attendre encore 8h pour qu'un ultimatum soit officiellement lancé au gouvernement provisoire. Et là, d'un trait de plume, tranquillement, le dirigeant du parti bolchevique s'octroie le titre qui justifie à ses yeux le fait de déclarer que le gouvernement est renversé et que le comité militaire révolutionnaire a pris le pouvoir. C'est vraiment ce que nous appelons la prise du pouvoir contre les soviets, au nom des soviets, parce que formellement il dit « nous prenons le pouvoir au nom des soviets ». Mais le congrès des soviets ne s'est même pas encore tenu, et normalement c'est à lui que devrait appartenir le titre permettant de dire « voilà, le gouvernement est déposé, nous nommons un gouvernement à la place de ce gouvernement-là, et ce gouvernement est une émanation du congrès ». Donc de la majorité, donc ça veut dire qu'il y a différentes composantes, donc ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement exclusivement bolchevique, ça veut dire qu'il y a des mencheviks, ça veut dire qu'il y a des socialistes révolutionnaires, ça veut dire qu'il y a d'autres gens. Mais de cela, manifestement, Lénine ne voulait pas.
Alors pour vous, du coup, cette prise du pouvoir en octobre 17 par les bolcheviks, elle a des conséquences. Hein. Ce serait donc le parti souverain, le monopole, le fétichisme du parti et la construction d'un État terroriste en guerre contre la société. Du coup, rien de positif dans cette expérience ?
Alors, dans cette expérience, si on considère l'expérience au plan politique, non, il n'y a absolument rien. Il faut dire, en effet, que c'est la mainmise progressive. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est la mainmise progressive d'un appareil d'État sur la société, qui est amenée à comprimer comme ça la société russe dans un corset de fer qui va devenir de plus en plus difficile à desserrer. Et ça signifie que vous avez par conséquent une interdiction du pluralisme politique. Les partis mencheviks, socialistes, révolutionnaires sont interdits. En 1920 et 21, ce sera les tendances à l'intérieur du parti bolchevique qui seront interdites. Kolentai, dirigeante de l'opposition ouvrière, en fera les frais, puisque précisément la tendance qu'elle représente sera dissoute, officiellement dissoute par ce congrès. Et vous allez avoir quelque chose qui va quand même faire date, qui est l'écrasement de la rébellion des marins de Kronstadt en 1921. Ce sont des gens qui, il ne faut jamais l'oublier, réclamaient tout le pouvoir aux soviets et non aux partis. Il faut quand même attirer l'attention de tout le monde sur la signification de ce mot d'ordre, ce qui veut dire que ce n'était pas du tout comme le prétendaient les dirigeants bolcheviques, des gens qui voulaient remettre en cause le pouvoir des soviets. Au contraire, c'était des gens qui prétendaient rendre aux soviets ce qui leur appartenait de droit, c'est-à-dire l'effectivité du pouvoir, alors que les bolcheviques voulaient s'arroger le monopole du pouvoir. Donc c'est très différent. Maintenant, juste pour ajouter deux mots, il faut dire que sur le plan intellectuel et culturel, l'expérience n'est pas terminée pour autant. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la poésie, dans le domaine du cinéma, dans d'autres domaines qui sont très importantes, mais qui ne sont pas du tout à mettre au compte ou au crédit des bolcheviks. C'est seulement en 1928, par exemple, que la direction bolchevique va reprendre en main le cinéma. Donc entre 1917 et 1928, vous avez quand même pas mal d'années où il y a une expression créatrice, avec des choses extraordinaires qui se font. Mais ça, c'est l'effervescence culturelle qui accompagne octobre 17. Ça n'est pas quelque chose qui est à mettre au crédit de l'expérience politique. Parce que l'expérience politique, c'est terrible. C'est au contraire la dépossession, c'est la destruction des organes d'autogouvernement que sont les soviets. Donc il n'y a rien, effectivement, il n'y a absolument rien de positif là-dedans.
Alors, pour décrire la situation créée, décrire la société mise en place après octobre 17, vous utilisez un concept, le concept de communisme d'État. Alors, État, on voit bien. Par contre, communisme, ça pose plutôt question. Parce que finalement, dans cette société qui se met en place, quelles sont les alliances de classe qui dominent, qui possèdent l'État ? Et quel est le mode de production ? Quels sont les rapports de production qui dominent dans cette société ?
Oui, c'est une question qui est fondamentale. D'abord, ça renvoie à la signification même du terme de communisme, qui est une signification éminemment controversée, parce que contrairement à ce que certains disent, ça n'a pas eu toujours la même signification. Et il y a eu plusieurs types de communisme dans l'histoire, à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, jusqu'à ce qui s'est passé justement en Russie. Alors, communisme d'État, c'est pour souligner que dans cette signification, tout devait appartenir à l'État. Lorsque Lénine, en 1920, fait un discours devant l'Union des jeunesses communistes de Moscou, il dit « communiste, ça veut dire que c'est commun, et la société communiste est une société où tout est commun. Tout est commun, ça veut dire que la terre, les moyens de production, l'activité de travail elle-même sont propriété commune. Mais quand il dit ça, ça veut dire propriété d'État. Donc si on parle de communisme d'État, ça n'est pas pour le plaisir de décerner à Lénine un brevet de communisme, c'est pas du tout ce qui est en question. Il s'agit de prendre au pied de la lettre ce que les dirigeants bolcheviques disent eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un comme Victor Serge, qui est quelqu'un de formation anarchiste, qui vit là-bas, à Petrograd et à Moscou, dans les années 20, est amené à utiliser ce terme-là, cette expression. Il dit « c'est un communisme d'État ». Il dit « en fait, ce à quoi nous aspirons, nous, c'est un communisme sans État ». Il utilise parfois, il dit un communisme des associations qui soit un communisme sans État. Voilà. Mais il veut mettre l'accent, quand il fait cette distinction ou cette opposition même, il veut mettre l'accent sur la différence de signification. Quand on dit communisme des associations, on ne parle pas de la même chose que quand on parle de communisme d'État. Quand on dit communisme d'État, ça veut dire que c'est l'État qui définit ce qui est commun. Ça veut dire que c'est une capture du commun par l'État. La propriété étatique, dans sa version monstrueuse, qui a été expérimentée en Russie, en est une illustration parfaite. Mais en revanche, lorsque d'autres parlent du communisme des associations, ils entendent d'abord et avant tout par là que ce qui est commun doit procéder de la libre activité des individus. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez que c'est la signification même du terme de communisme qui est en jeu. Voilà. Et puis, concernant le mode de production et les classes, je pense que là, il faut être assez clair. Ça n'est pas du tout... pendant un certain temps, il y a des gens qui ont parlé d'État ouvrier dégénéré, etc. Mais non, ça n'est pas du tout ça. C'est un capitalisme d'État qui est un capitalisme assez original. Parce qu'il faut quand même expliquer que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire du capitalisme, c'est la première fois que vous avez l'appareil policier, l'appareil du NKVD, qui à partir de 1932-1934 va prendre en charge directement le recrutement et l'affectation de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est quand même un mode de production assez particulier. Vous avez un appareil policier qui prend en charge directement l'affectation de la main-d'œuvre, qui décide, c'est presque comme si vous aviez une sorte d'accumulation primitive au début du capitalisme, mais là, ça serait réalisé non pas par des propriétaires privés, mais par l'appareil d'État répressif. Dans ce qu'il y a de plus répressif. Parce que 32-34, c'est l'assassinat de Kirov, un dirigeant important de l'appareil d'État bolchevique. Et à partir de ce moment-là, la répression se déchaîne et les bolcheviques vont prendre prétexte de cela, ou les bolcheviques staliniens en l'occurrence, des 34 et même un peu avant, ils vont prendre prétexte de cela pour dire justement il faut mettre au pas toute cette main-d'œuvre-là et l'organiser militairement. Donc c'est l'organisation militaire de la main-d'œuvre industrielle par un appareil de répression. C'est quand même sans précédent. C'est une figure donc, qui impose de parler d'un capitalisme tout à fait spécifique. Mais c'est un capitalisme, parce que ce qui vaut, les valeurs qui sont consacrées dans les discours et dans les pratiques, c'est le productivisme. C'est le taylorisme. Lénine, dès avant Staline, a dit qu'il fallait que la Russie, la jeune Russie, se mette à l'école du taylorisme. Donc ce sont des significations sociales qui sont complètement capitalistes. Ça n'a rien à voir, justement, la révolution de février, c'était pas ça, parce que c'était des significations sociales imaginaires, comme dirait Castoriadis, qui étaient aux antipodes de cette organisation rationnelle du travail. Alors que là, au contraire, ce sont des principes capitalistes d'organisation du travail qui prévalent, qui sont même scientifiquement et, comment dirais-je, administrativement organisés et mis en place par l'appareil d'État.
Alors vous avez évoqué la notion de stalinien ou de stalinisme. Et toute une tradition fait une distinction entre le léninisme et le stalinisme. Alors qu'en pensez-vous, et est-ce que pour vous c'est léninisme et stalinisme, est-ce que c'est au fond la même chose?
Alors c'est assez compliqué parce que en définitive, il y a une façon à mon avis assez erronée de s'exprimer qui consiste à situer sur le terrain des personnes et à dire que par exemple Staline était le continuateur pur et simple de Lénine, ce qui est faux. Dit comme ça, c'est faux. Mais si on pose la question d'une façon, comment dirais-je, historique, c'est-à-dire en mettant en regard ce qui s'est passé en 1917 avec ce qui s'est passé en 1930, en 27, en 30, en 34, en 38, etc., on s'aperçoit en effet qu'il y a des germes. J'aime beaucoup cette métaphore qui est utilisée assez souvent. Alors c'est une métaphore qui est utilisée par Castoriadis dans un entretien qui porte sur l'idée de révolution en 1989. Et c'est une métaphore qui, bien avant lui, a été utilisée par Victor Serge. Victor Serge écrit un texte en 1947, qui est un texte sur le bilan, il met 30 ans de révolution, 30 ans plutôt après la révolution, pas 30 ans de révolution, et il indique à ce moment-là qu'il y a des germes qui sont des germes de mort. Des germes de mort qui existent dans la société russe du fait de l'autoritarisme, de la conception bolchevique du pouvoir et du parti. Et il dit les bolcheviques ne font confiance qu'à eux-mêmes en tant que parti. Et donc ils craignent la compétition, y compris la compétition électorale avec les autres partis, et c'est la raison pour laquelle, dès 1920, ils sont amenés à fermer absolument tout, c'est-à-dire à tout verrouiller, à interdire le pluralisme politique. Donc de ce point de vue-là, il y a des germes qui sont déjà dans le léninisme. Il y a des germes qui sont déjà dans les pratiques qui sont celles de Lénine. Il y a des germes qui... Les germes, ça peut être écrasé, ça peut au contraire être développé. Et de ce point de vue-là, il faut dire que Staline a développé les germes de mort qui étaient déjà présents dans le léninisme.
Alors, après Lénine et Staline, ce que je vous propose, Pierre, c'est de faire une petite translation en arrière dans le temps et d'évoquer Marx et Lénine. Alors en France, il y a de nombreuses organisations qui se revendiquent du marxisme-léninisme. Votre livre pointe des différences, voire des désaccords. Dictature du prolétariat, pouvoir central contre constitution communale, dépérissement de l'État, rôle du parti. Alors, selon vous, est-ce que Marx, d'une certaine manière, a été dévoyé par Lénine?
Alors, il a été instrumentalisé de façon très sélective par Lénine, qui pensait d'abord et avant tout toujours aux besoins pratiques qui étaient ceux de son parti. Donc Lénine a toujours mis au-dessus de tout les intérêts pratiques de son propre parti, donc le parti bolchevique. Et donc la lecture qu'il est amené à faire de Marx est complètement subordonnée à ses impératifs pratiques. Donc il ne lit pas Marx pour chercher dans Marx ce que Marx a vraiment voulu dire. Il lit dans Marx ce qu'il arrange dans une situation donnée parce qu'il en a besoin pour convaincre justement les membres de son parti de la nécessité de changer ou de réorienter, de changer de ligne, ou de réorienter l'activité qui est celle du parti bolchevique. Et il le fait à plusieurs reprises, et il y a notamment un texte un peu effarant, qui n'a strictement rien à voir avec ce que Marx a pu écrire, même sur la dictature du prolétariat, qui est un texte de Lénine qui s'appelle « Contribution à l'histoire de la notion de dictature ». Et c'est un texte dans lequel Lénine n'hésite pas à dire que la dictature, au sens où il l'entend, c'est un pouvoir sans limite. Un pouvoir absolu, sans limite, qui procède uniquement de l'exercice et de l'usage de la force. Et c'est ainsi qu'il est amené à justifier justement la dictature telle qu'il l'entend. Or, si on se retourne vers Marx, on s'aperçoit que même en 1850-52, la notion de dictature du prolétariat ne signifie jamais ça. Chez Marx, ça signifie l'usage de la répression contre les ennemis de la révolution victorieuse. Ça ne signifie en aucun cas qu'on se passe de loi, on se passe de limites, ça signifie qu'on est amené à encourager l'auto-activité des masses. C'est tout au moins ainsi qu'il le comprend à partir de 71. C'est-à-dire qu'il faut quand même souligner que pour Marx, 1871, c'est la Commune de Paris. Il en tire des enseignements qui sont complètement contradictoires avec ce qu'il pensait lui-même en 1850. 1850, c'est quelqu'un de très jacobin, la République une et indivisible, il pense en termes de dictature du comité de salut public. Et en 1871, alors c'est peut-être un revirement, mais pour moi c'est un revirement qui est plutôt positif. Le revirement de 1871, c'est qu'il se dit, ben, la Commune de Paris nous a montré qu'on ne peut pas se contenter justement de reprendre telle quelle la machine de l'État, il faut la briser. Et c'est la raison pour laquelle il faut une auto-administration, il faut des fonctionnaires élus et révocables, il faut des mandats impératifs, etc. Donc c'est totalement à l'opposé. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas mettre sur le même plan Marx et Lénine. Encore une fois, je suis en désaccord avec l'usage même de la notion de dictature du prolétariat, mais entre cette notion et d'autre part la notion léniniste de dictature, il y a une différence qui est assez fondamentale. Donc en ce sens-là, oui, on peut dire qu'il a été dévoyé, que l'inspiration qui était celle de Marx a été dévoyée par Lénine pour des besoins qui sont encore une fois des besoins strictement instrumentaux.
Alors pour reprendre l'expression que vous utilisez dans le titre de votre ouvrage, l'ombre d'octobre, vous indiquez que cette ombre d'octobre a réussi à masquer deux révolutions, la révolution mexicaine, donc avant 17, et puis surtout la révolution espagnole en 1936. Alors en quoi cette révolution espagnole, on va prendre cet exemple-là, a été une révolution sociale pour vous exemplaire ?
Oui, c'est une révolution qui est extrêmement importante parce qu'on a eu tendance, sous l'effet justement des communistes staliniens en particulier, à réduire ce qui s'est passé en Espagne de 1936 à 1939 à quelque chose qui relèverait finalement d'une sorte de guerre classique entre d'un côté le camp des franquistes et puis de l'autre côté le camp républicain. Et c'est le mérite de Orwell que d'avoir montré qu'en fait il y avait une guerre politique à l'intérieur du camp républicain. Et que cette guerre politique opposait d'un côté le communisme autoritaire, qui était celui des staliniens, et puis de l'autre côté un communisme de type associationniste et libertaire, qui était celui de la CNT, de la FAI, la Fédération donc anarchiste ibérique, qui avait été impulsée, c'est l'inspiration de Bakounine qui prévalait à ce moment-là, et puis d'autre part du POUM, y compris, qui était un parti marxiste d'inspiration libertaire. Et ce conflit-là devient extrêmement violent, parce qu'il faut imaginer, tout le monde fait l'impasse là-dessus, mais ce n'est pas la guerre d'Espagne uniquement, c'est la révolution espagnole. Parce qu'en juillet 1936, à partir du moment où il y a le coup d'État de Franco, vous avez un véritable changement qui affecte les rapports sociaux quotidiens de centaines de milliers d'Espagnols. C'est des gens qui sont amenés à cirer les chaussures, qui, comme dit Orwell, arborent sur... sur leurs panneaux nationalisés ou collectivisés. C'est un changement complet de mentalité, avec bien sûr, comme ça se passe un peu partout, des excès, bien sûr, ça va de soi. Mais ce qui est important, c'est le fait que l'État est en miettes. L'appareil d'État est complètement à terre. Le pouvoir est exercé en fait par des comités municipaux, des comités de quartier, des comités d'usine. C'est très conseilliste, c'est très libertaire, c'est une révolution qui est vraiment libertaire. Ça présente un trait commun justement avec le Mexique de 1910. C'est que ce sont deux révolutions d'inspiration libertaire. L'une avant 17, l'autre après 17. Mais c'est justement ça qu'on a voulu étouffer. Donc l'idée que finalement c'est toujours des institutions d'autogouvernement. C'est pour ça qu'il était important de mettre les choses au point concernant la signification du mot soviet. Les soviets sont des institutions du gouvernement, les d'autogouvernement, les comités d'usines, de quartiers, de villages qui voient le jour, qui sont amenés à prendre en charge la gestion des entreprises, ou des quartiers, des localités, sont des institutions d'autogouvernement. Donc ce qu'il y a de très important dans cette révolution, c'est la mise en place d'institutions d'autogouvernement. C'est par là que finalement il y a un lien assez profond entre février 1917 et juillet 1936. Pas entre octobre 1917 et juillet 1936. Et il y a un ouvrage magnifique d'un historien anglais qui a consacré 40 ans de sa vie à écrire là-dessus, qui s'appelle Burnett Bolotin. Et le livre, c'est « La guerre d'Espagne ». C'est un livre remarquable de près de 1000 pages, mais ça se lit vraiment comme un roman. Et c'est un livre magnifique qui reconstitue et remet finalement en scène et rend présent d'une façon très vivante ce qui s'est passé, les principaux épisodes, et notamment ce qui a pu se passer à Barcelone en mai 37, hein, où les gens des gardes civils venus de Valence, sur ordre du gouvernement républicain, ont purement et simplement réprimé les milices du POUM et les milices anarchistes. Donc ça, c'est un épisode qui est fondamental et ça permet de comprendre pourquoi cette révolution, c'est une révolution qui est restée assez méconnue finalement, assez ignorée. Hein. Le premier ouvrage de Burnett Bolotin s'appelle « Le grand camouflage ». le grand camouflage. Surtout, 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 tenir les gens dans l'ignorance, tenir l'opinion publique et donc des centaines de milliers et des millions de personnes dans l'ignorance de ce qui s'est passé en Espagne. Ça pourrait leur donner une mauvaise idée et ça pourrait justement éventuellement susciter une imitation d'exemple. Voilà. Et c'est ce dont on ne voulait pas, ce dont on ne voulait absolument pas. Ce dont l'Union soviétique de Staline et le Parti communiste espagnol ne voulaient pas, et les autres partis communistes, français aussi, comme italiens, comme d'autres. Bon, voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. La révolution espagnole est une révolution authentique parce qu'elle promeut un imaginaire social égalitariste et qu'elle se dote d'institutions d'autogouvernement.
À la fin de votre livre, vous insistez sur le fait qu'il y a plusieurs communismes, donc le communisme d'État d'octobre dont vous nous avez parlé, qui en est un, mais historiquement, évidemment, il y a eu d'autres conceptions du communisme. Alors, en quoi est-ce qu'il est décisif de s'orienter dans ce labyrinthe, et un nouveau communisme que vous appelez par le terme du communisme des communs, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable, en quoi consiste-t-il ?
C'est vrai que c'est un labyrinthe, hein, parce que quand on est amené à s'interroger sur la signification du terme de communisme, on pense que tout est simple. Et en fait, comme tout à l'heure j'ai pu en parler, c'est pas du tout simple, parce que derrière ce mot de commun, il y a des choses très différentes qui sont signifiées. Et donc, quand on parle de communisme des communs, on met l'accent peut-être davantage que sur communisme, sur le pluriel, c'est-à-dire sur les communs. Parce que les communs, ça relève d'une expérience qui est une expérience multiforme, qui est non centrée, qui ne relève absolument pas de la souveraineté de l'État, qui est même contradictoire avec la souveraineté de l'État. Et donc pour nous, c'est un point qui est absolument fondamental. Néanmoins, si nous parlons de communisme, c'est parce que le terme n'a pas exactement, il ne peut pas être réduit à la signification qui est celle du mot russe soviet. Soviet, c'est un mot russe qui a été ensuite exporté avec succès, mais qui est devenu l'emblème de quelque chose d'assez monstrueux, ce qui se passait dans l'Union dite soviétique, et ça justifie qu'on ne parle plus de soviet, parce qu'un mot ne peut pas impunément comme ça avoir été utilisé pendant des dizaines d'années pour signifier exactement le contraire de ce qui est signifié originellement, sans que ça ait des conséquences sur le plan du langage. Bon. Mais là, c'est un peu différent, parce que le communisme, le terme a existé à la fin du 18e, le terme a existé au début du 19e, il n'avait absolument pas la signification de communisme d'État, pas du tout. C'était des gens qui pensaient que le communisme, c'était l'État de communauté, c'est-à-dire une société très unie, y compris moralement et spirituellement. Les premiers communistes n'étaient pas du tout des matérialistes. Et puis ensuite, vous avez eu le communisme qui est celui de l'association des producteurs, celui de Marx et d'un certain nombre d'autres penseurs. Vous avez eu le communisme d'État et de parti, qui est celui des bolcheviks, celui de Lénine, celui de Staline. Et puis vous avez quelque chose de tout à fait différent qui s'expérimente aujourd'hui, voilà, qui est de l'ordre du commun. C'est pour ça que dans le communisme, il y a commun, après tout. Donc, il faut quand même le rappeler. Et c'est parce que c'est de l'ordre du commun que le terme de communisme peut être risqué de nouveau. Il est à prendre avec beaucoup de prudence, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il a malheureusement signifié quelque chose d'assez monstrueux pendant des décennies. Néanmoins, si on valorise la signification du commun, à ce moment-là, on valorise ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a de co-obligation que celle qui procède d'une participation à une même activité. Voilà. Le commun, le véritable commun, ne peut procéder que de l'exercice de la démocratie la plus radicale. Et ça, c'est effectivement ce qu'on trouve dans la racine. Le terme de commun, d'après son étymologie latine, signifie d'abord et avant ça une sorte de co-obligation fondée sur la coparticipation à une même activité. Ça, c'est positif.
Alors Pierre, après le commun que vous venez de décrire, je vous propose d'aborder la question, enfin la notion de révolution, en partant du léninisme. Alors le léninisme, conquête insurrectionnelle du pouvoir par un parti état-major, transformation de la société par le haut, hein, vous êtes suffisamment revenu dessus. Donc aujourd'hui, on peut estimer que c'est périmé, même si sans doute de quelques organisations qui y croient encore. Alors, mais le problème politique de fond, hein, 100 ans après 17, hein, développement du capitalisme, il reste le même, hein, pour dire les choses rapidement, une classe possédante oppose au peuple un traitement insupportable. Crise après crise, le capitalisme perdure. Et aujourd'hui, selon vous, quelles sont les nouvelles façons de faire révolution ?
L'expression de faire révolution est une expression qui est assez forte, parce qu'elle souligne qu'il y a là une dimension d'activité qui est irréductible, et que par conséquent, on ne fait pas la révolution à la place d'autres personnes, mais faire révolution, c'est une œuvre collective. C'est l'œuvre de la plus grande partie de la société. Les véritables révolutions sont l'œuvre de la plus grande partie, ou en tout cas d'une partie très influente, très importante de la société. Ce ne sont donc pas des coups d'État réalisés par de petites minorités conscientes qui entraîneraient, malgré elles, une masse inconsciente plongée dans l'ignorance et les préjugés. Hein. C'est un peu comme ça qu'on avait tendance au XIXe siècle. Avant donc le léninisme, on avait souvent tendance à se représenter les choses de cette façon. En France, hein, il faut quand même le dire, 1848, c'est encore un moment où on conçoit la Révolution comme étant l'œuvre de petites minorités conscientes. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de défaites qui font qu'on s'interroge de plus en plus sur la viabilité de ce chemin, et il y a beaucoup de gens qui remettent ça en cause, à juste titre à mon sens, et on doit donner un sens à la notion de révolution qui est très différent. La notion de révolution, il faut la comprendre comme étant, alors on aime beaucoup avec Christian Laval cette expression de Kassouriadis, une auto-institution de la société. Chaque mot est important. Auto-institution de la société. C'est la société, c'est l'œuvre de la société, c'est pas l'œuvre d'une minorité d'avant-garde. Auto-institution, parce que institution, ça veut dire qu'on est amené à faire émerger de nouvelles significations imaginaires. Par exemple, les communs, aujourd'hui, relèvent de cette nouvelle signification imaginaire. Auto-institution, parce que c'est l'acte de la société qui se prend elle-même pour objet. Une véritable révolution, c'est toujours une auto-institution. Quand la société, la plus grande partie de la société, est amenée à changer explicitement les lois et les règles de fonctionnement qui régissent les rapports sociaux. Ça, c'est une véritable révolution. Donc, en ce sens-là, le coup d'État léniniste n'est pas du tout une révolution. C'est pour ça qu'on est très réticent à parler de révolution d'octobre. Et aujourd'hui, faire révolution, ça suppose d'abord de s'adosser à l'expérimentation des communs. Notre-Dame-des-Landes est un commun qui s'expérimente et qui doit continuer à s'expérimenter. Donc, la question du renoncement au projet de l'aéroport est une chose, mais la question de la prolongation, de la perpétuation, de la continuation de l'expérimentation sociale et politique en est une autre. Et c'est là-dessus qu'on doit miser. On doit faire en sorte que ce commun puisse continuer à expérimenter de nouvelles formes de vie. C'est comme ça qu'on conteste pratiquement la domination qui est celle du capitalisme. Et donc faire révolution, c'est pas préparer le grand soir, ou faire de la révolution une affaire de professionnels. Comme si, justement, la révolution était l'affaire des révolutionnaires. Ben non, ce n'est pas les révolutionnaires qui font la révolution. C'est des gens qui sont amenés à accomplir un certain nombre d'activités. On n'aurait peut-être pas soupçonné la veille qu'ils étaient capables de cela. Et puis, il s'avère que, justement, ils sont capables de cela. Et il faut favoriser, en semant sur ce terrain-là ou ce terreau-là, il faut favoriser l'émergence de telles possibilités. Et donc faire révolution, c'est d'abord et avant tout faire en sorte que de nouvelles pratiques individuelles et collectives émergent qui rendent possible d'autres formes de vie. C'est ça, faire révolution. Ça n'a rien à voir avec une insurrection pilotée par un parti.
Et c'est de cette multitude de pratiques nouvelles, de mise en œuvre de commun, que va émerger une nouvelle société ?
Oui, dans la mesure où ces pratiques sont amenées à se coordonner entre elles. Et je précise se coordonner. Je ne parle pas de centralisation, surtout pas. Je parle de coordination démocratique. Ça peut adopter la forme qui est la forme fédérative, qui me semble être une forme relativement souple, qui permet justement une coordination entre des communs qui conservent leur autonomie. Et ça me paraît aujourd'hui très, très important, cette coordination démocratique de l'expérience des communs. On peut espérer que si cette coordination démocratique se développe, alors à ce moment-là, de nouvelles formes de vie apparaîtront et s'enracineront. Et j'aime bien la formule qui a été utilisée il y a depuis deux jours par les gens de Notre-Dame-des-Landes, qui est enraciner l'avenir. Enraciner l'avenir, faire révolution aujourd'hui, c'est enraciner l'avenir dans des pratiques collectives et des formes de vie qui s'expérimentent ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec le grand soir, ça n'a rien à voir avec une supposée lutte finale qui est un mirage. Il n'y aura pas de lutte finale. Il y aura toujours la lutte, il y aura toujours le conflit. Et finalement, c'est heureux qu'il y ait toujours le conflit. Il ne faut jamais, jamais oublier ça et ne jamais ôter au commun et à l'expérience des communs la pointe conflictuelle qui fait justement son caractère politique, qui fait que c'est absolument indigérable et inassimilable par le capitalisme.
mais on peut penser que justement le capitalisme ne se laissera pas faire, entre guillemets. Autrement dit, le capitalisme est doté d'une police, d'une armée extrêmement répressive. Il l'a montré dans les récentes manifestations. Alors, ce fédéralisme, cette fédération des communs, à un moment donné, va être dans un conflit qui pourrait être violent, y compris.
Oui, il ne faut pas écarter cette possibilité. Il ne s'agit pas de se masquer comme ça. La réalité, qui peut être assez vite la nôtre, tout à fait. Ces expérimentations, plus elles sont conflictuelles, plus elles mettent en cause le pouvoir qui est celui de la propriété de l'État. J'allais dire le pouvoir de l'État propriétaire, parce que finalement, c'est l'État qui est le garant, dernier ressort, de la propriété, et pas simplement de la propriété publique, mais de la propriété privée. Et la logique propriétaire de l'État, c'est une logique assez fondamentale. Il ne faut pas espérer la réformer de l'intérieur, ça n'a strictement aucun sens. Et je ne crois, mais alors, pas une seule seconde dans les pouvoirs qu'aurait l'État de s'autocontrôler. Ça, c'est absolument... Ça, c'est la douce illusion, bon, qui peut être payée très cher, ensuite, par les gens qui la nourrissent. Mais, en revanche, il me paraît nécessaire de distinguer entre la question de la prise du pouvoir et la question du pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend la question en termes de prise du pouvoir, on se fixe un objectif qui est de conquérir le pouvoir d'État. Et à ce moment-là, on se fait illusion parce qu'on estime que le pouvoir d'État va pouvoir servir d'instrument pour changer les rapports sociaux. Bon. Et on sait que, compte tenu de la nature propriétaire qui est celle de l'État, ça n'est pas possible. Mais en revanche, la question du pouvoir, ça veut dire qu'on ne peut pas esquiver la question de l'affrontement avec le pouvoir. Et ça, je pense qu'en effet, il faut s'y préparer. Donc, par exemple, ça veut dire que, s'agissant de Notre-Dame-des-Landes, il faut se préparer à tout, y compris, en effet, à une confrontation, pourquoi pas, qui prenne une forme assez violente. Ça s'est passé, finalement, en 2012, ils ont renoncé, mais il y a eu quand même un début de confrontation. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'espèce de chimère ou d'illusion qui veut qu'il y aurait deux armées en face l'une de l'autre, avec un parti qui dirigerait chacune des armées, un peu comme un état-major militaire, avec une espèce de confrontation à terrain découvert. Bon, alors là, c'est le meilleur moyen de se faire battre à plat de couture. Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut renoncer de manière définitive. En revanche, les formes que peut revêtir l'affrontement avec le pouvoir d'État en place, ça, oui, bien sûr, il faut y réfléchir, il ne faut pas reculer devant ses responsabilités. Il faut être capable, pour défendre des acquis qui sont des acquis chèrement acquis, comme les communs, comme le commun de Notre-Dame-des-Landes, il faut effectivement ne pas hésiter à se poser la question de façon lucide.
Là, il y a eu dans votre intervention une précision sur communisme d'État qui me paraît importante, à savoir que la société qui se met en place à ce moment-là, c'est une société bon, que vous caractérisez de communisme d'État, bourgeoisie d'État, etc. Donc il y a une clarification quand même par rapport au livre qui ne précise pas ce genre d'analyse. Il y a une précision sur la nature du stalinisme. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Après, il y a un débat qui peut avoir lieu sur est-ce que le mode de production, c'est un mode de production capitaliste d'État ou est-ce que c'est un mode de production un petit peu hybride, très particulier. Et puis sur les classes au pouvoir ou la classe au pouvoir, parce que si on parle de capitalisme d'État, il faut parler de bourgeoisie d'État. Alors, est-ce que c'est une bourgeoisie d'État? Est-ce que c'est une classe exploiteuse nouvelle qu'on n'a pas rencontrée auparavant? Donc ça, c'est une première chose. Alors après, il y a toute la question sur peut-être sur le léninisme. Quand même, vous indiquez que le léninisme porte en germe le stalinisme, qui pouvait développer ou pas développer ces germes négatifs, il y a malgré tout quand même une mise sur le même plan quasiment du léninisme et du stalinisme. Bon, ça paraît quand même très, très discutable. Bon, par exemple, un des ouvrages que vous citez abondamment dans votre livre, c'est le livre de Alexander
Rabinovitch,
voilà, je recherchais le nom. Qui montre bien, lui, très clairement, en tant qu'historien, il est sur une thèse qui est que ce n'est pas un coup d'État. C'est-à-dire il y a effectivement une intervention du parti bolchévique, mais alors intervention du parti bolchévique, il faut quand même voir comment il décrit les différentes tendances, comment ça déborde de partout, la perméabilité qu'il y a entre le parti bolchevique de 17 et la sensibilité des masses, comme il le dit, l'intervention de Lénine, etc. Et il dit donc qu'il y a quand même une conjonction très forte entre ce que fait le parti bolchevique, dans les faits, indépendamment d'ailleurs souvent des résolutions qui ont été votées par le comité central, où il dit bien c'est une stratégie en fait de subversion graduelle qui fait que dans les faits, le pouvoir du gouvernement provisoire, ce pouvoir-là est complètement dépossédé. Et effectivement, à un moment donné, bah, il y a juste à prendre le fruit qui est mûr. Donc je pense que là, il y a une question peut-être à discuter. Et puis il y a quand même une donnée quand même dans le léninisme, c'est la préoccupation de la révolution internationale. C'est-à-dire que Lénine, lui, il veut absolument pas laisser passer la chance. Alors on peut discuter évidemment après coup sur est-ce que c'était une chance qui finalement est positive ou négative, mais il dit on peut pas laisser passer cette occasion. Il resitue l'affaire dans la question de la révolution, en particulier en Europe.
Alors les deux points méritent en effet d'être abordés assez sérieusement, mais on ne met pas exactement sur un pied d'égalité. On ne parle pas, à vrai dire, du rapport entre léninisme et stalinisme de façon directe. On est amené simplement à noter que dès 1917-18, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, qui vont être utilisées à beaucoup plus grande échelle et d'une façon beaucoup plus intensive ensuite. Ça veut dire donc qu'il y a non pas une pure et simple continuation, mais des affrontements. Mais nous ne sommes pas de ceux qui considérons justement qu'il n'y a pas d'affrontement autour de cette question du pouvoir. Il y a des affrontements en 1923, il y a des affrontements avant, il y a des affrontements en 1927, il y a des affrontements ensuite au début des années 30. Et ça ne cessera pas, parce que finalement le régime dit soviétique va fonctionner un peu à partir d'une logique de mobilisation militaire, avec tout ce que ça implique, effectivement, de conflits internes. Et nous ne songeons pas donc à atténuer les différents chocs qui auront lieu, les différentes confrontations qui auront lieu. Nous les mettons en perspective. Ça veut dire que nous considérons en effet que le parti bolchevique lui-même s'est transformé. Ce que décrit Rabinovitch, c'est effectivement tout sauf un parti monolithique. Mais justement, ce qu'il décrit, c'est aussi l'effort extraordinaire qui est accompli par Lénine en tant qu'individu pour reprendre en main le parti qui lui échappe largement. Il y a des passages en particulier où il montre que les dirigeants bolcheviques à la base, malgré l'abandon officiel par le parti du mot d'ordre de tout le pouvoir aux soviets, continuaient, eux, de parler de la remise de tout le pouvoir entre les mains des soviets. Donc il y a des dirigeants locaux qui étaient les antennes, en quelque sorte, de la direction bolchevique dans les masses, qui renvoyaient à l'état-major un certain nombre de signaux en disant « Attention, ne vous trompez pas, ça n'est pas parce que la direction des soviets est devenue une direction complètement liquidatrice et conciliatrice que pour autant les ouvriers, les paysans et les soldats sont amenés à rejeter les soviets en tant qu'institution. » Donc en fait, ils continuent de faire confiance aux soviets en tant qu'institution parce qu'ils voient très sûrement que les soviets sont des institutions d'autogouvernement. Donc ça, il y a des dirigeants bolcheviques qui le savent et qui en prennent conscience. Et ce qui fait que, justement, ça tiraille dans tous les sens. Donc il faut, en effet, considérer, il a raison de ce point de vue-là, Alexandre Rabinovitch, il faut considérer qu'il y a une lutte interne acharnée dans la direction du parti bolchevique. Mais, en même temps, il y a des habitudes qui ont été transmises de par le fonctionnement interne. Hein. Alors je prends un exemple qui est celui d'un dirigeant qui va être assassiné quelques mois après, qui s'appelle Volodarsky, qui est amené le 5 octobre dans une réunion du comité de Petrograd du parti bolchevique à avertir les militants et les responsables du parti qui sont là, et il leur dit « Ne vous faites pas d'illusions, le plus difficile, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, c'est de le conserver ». Et à ce moment-là, il a cette formule terrible. Il parle à des gens donc, qui savent exactement à quel genre d'expérience il peut faire référence. Il dit « Nous savons que nous aurons à baisser les salaires, que nous aurons à faire régner la terreur, que nous aurons à augmenter le chômage. Ne nous précipitons pas trop. Parce que nous savons cela. » Ce qui est terrible, c'est que Quelqu'un qui se distingue le 5 octobre ne se pose même pas la question, à la limite Zinoviev et Kameniev, eux vont se la poser quelque temps après, dans des termes peut-être un peu contestables, mais ils ne se posent pas la question de savoir si ça vaut la peine de prendre le pouvoir dans ces conditions. Et si on se pose la question rétrospectivement, eh bien, on doit, à mon avis, s'imposer de répondre par la négative. Si c'est ça, et si on sait par avance, si on sait quelque chose comme 20 jours avant la prise du pouvoir, que ça sera ça après, eh bien à ce moment-là, on se dit ben, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le pouvoir pour imposer ça aux masses? Bon, la réponse est dans la question. Donc, je pense qu'à cet égard, il y a effectivement un certain nombre de clarifications à apporter. Ça vient de la formation. C'est-à-dire, ça vient de la formation, de la conception que Lénine impose au parti au moment de la scission en 1903. L'idée d'un parti d'avant-garde sélectionné avec des révolutionnaires professionnels qui sont voués corps et âme à la cause du parti, qui sont donc subordonnés au centre, qui envoient des directives, etc. Même si ça marche mal, même si c'est pas monolithique, il n'en reste pas moins qu'il y a cette espèce d'habitude de fonctionnement qui va peser très lourd ensuite sur le déroulement de l'insurrection elle-même. Et puis, en effet, coup d'État, alors ça, ce n'est pas Rabinovitch, c'est Marc Ferraud. Et Marc Ferraud l'utilise uniquement pour l'épisode dont j'ai parlé. Donc il dit d'une façon très précise, ça rectifie un peu Kassouriadis, Kassouriadis dit un peu à l'emporte-pièce, c'est un coup d'État. Alors que Marc Ferraud dit c'est une combinaison entre une insurrection militaire qui a le soutien d'une large partie des masses et un coup d'État, qui est l'acte d'usurpation réalisé par Lénine quand il se met à rédiger lui-même une déclaration dans laquelle il dit bah, tout le pouvoir appartient désormais au comité militaire révolutionnaire. Mais donc il faut nuancer en effet, il faut faire des distinctions. Et puis quant à la troisième partie, le troisième aspect ou le troisième volet de la question, à ce moment-là je crois en effet qu'il est utile de préciser que pour ce qui est en tout cas des premières années qui ont suivi octobre 1917, Lénine cherche à tout prix à prendre appui sur la révolution dans les autres pays, en particulier il attend une révolution en Allemagne. Il attend une révolution dans les pays industrialisés parce qu'il considère que ce sont des pays qui seront plus développés techniquement et productivement que la jeune Union soviétique et ils seront capables à ce moment-là de l'aider à surmonter ses propres difficultés internes. Mais en même temps, il le fait d'une façon telle que ça n'est pas très favorable à cette extension de la révolution qu'il appelle pourtant de ses voeux. Pourquoi ? Parce qu'il organise la Troisième Internationale. Et en organisant la Troisième Internationale, il réintroduit des liens et des rapports de subordination entre les partis communistes locaux et d'autre part le centre. Et ça va amener à quelques déconvenues, voire à des désastres. Par exemple, vous avez en Allemagne, alors ça c'est en octobre 1923, un épisode qui est relativement peu connu, qui est une insurrection sur commande. Donc c'est Trotsky, Zinoviev et d'autres dirigeants bolcheviques qui sont amenés à ce moment-là, parce qu'ils dirigent la Troisième Internationale, à commander au parti communiste allemand dirigé par un certain Brandler à l'époque, de prendre le pouvoir en octobre 1923, totalement indépendamment du développement des organes d'autogouvernement qui se mettent en place, des conseils d'usine qui se mettent en place. Et on convoque comme ça, de façon très artificielle, un congrès des conseils d'usine pour essayer de donner une sorte d'aval à une conquête du pouvoir qui serait réalisée par le seul parti. Donc on essaie d'imiter ou de reproduire le modèle d'octobre 1917. Les conséquences vont être assez désastreuses. Trotsky s'illustre d'ailleurs très malheureusement dans cette histoire parce qu'il recommande de fixer une date. Et ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'il demande de fixer la date du 7 novembre. Donc il veut que l'insurrection allemande ait lieu le 7 novembre pour que ce soit le jour anniversaire de la révolution d'octobre 1917. Ça, c'est ahurissant. Donc il y a un côté planification des révolutions, comme si les révolutions pouvaient être fixées comme ça, à des dates précises, qui témoignent d'une instrumentalisation de l'international. Après, ça va aboutir à quoi ? À la subordination de la Troisième Internationale aux intérêts de l'État national russe. Donc le verre était dans le fruit. Voilà. C'est cet instrument qui aurait dû servir la cause de l'extension de la révolution socialiste internationale est plutôt quelque chose qui aboutit à l'enrayer, à lui faire obstacle et puis à paralyser dans certains cas des processus qui étaient en marche.
Alors moi j'ai une question un peu différente sur la question de la démocratie radicale et sur la question de l'autogouvernement. parce que on voit aussi que on peut se heurter parfois à des évidemment ça nous conduit à nous heurter à d'autres difficultés, et par exemple l'expérience qui a pu avoir lieu autour de Nuit debout, ce genre de tous ces mouvements qui ont eu lieu, ça nous amène aussi à nous demander dans quelle mesure la perspective de la démocratie radicale est-ce qu'elle ne contient pas en elle-même un danger qui serait finalement que la forme devient tout, c'est-à-dire que finalement, bon, on fait un mouvement qui devient lui-même, qui se regarde lui-même et qui devient lui-même sa propre fin. Alors, comment du coup peut-on situer ici une perspective ? Enfin, quelle serait comment se poserait cette question
de la démocratie au sens radical du terme. Oui, oui, c'est... Donc, en général, on préfère ne pas trop parler de démocratie participative parce que dans l'esprit de la plupart des gens, c'est une sorte de complément ou de supplément d'âme à la démocratie représentative. Donc, ça fait de la démocratie participative quelque chose finalement de secondaire ou de dérivé. Alors que nous pensons que la vraie question, c'est effectivement la question des limites de la représentation, c'est-à-dire que le fait qu'une petite minorité parle et agisse au nom de la majorité, c'est-à-dire remplace, c'est-à-dire se substitue. Donc nous pensons la démocratie comme étant l'affaire des citoyens, et nous pensons que ça doit impliquer les citoyens dans la délibération, dans la décision, la prise de décision, et dans l'exécution de la décision, même si dans l'exécution de la décision, il arrive assez souvent que tout le monde ne puisse pas faire exactement la même chose. Mais il n'empêche que nous tenons fermement à cette exigence-là. Or, c'est pas exactement ce qui s'est passé avec l'expérience de Nuit debout. Et à cet égard, Jacques Rancière, par exemple, a dit des choses assez justes. Il y a une sorte de fétichisation de la discussion pour elle-même, qui se comprend parfaitement, parce que comme c'était une sorte de bouffée d'oxygène pour beaucoup de gens qui faisaient l'expérience, justement, de la discussion et du débat, il y avait ce besoin d'imposer un temps égal de parole, 2 minutes pour chacun, dans les expériences qui ont pu être menées sur la place de la République ou dans d'autres villes. Et c'était, dans une certaine mesure, tout à fait souhaitable et nécessaire. Mais il aurait fallu s'interroger sur le dépassement de cette phase initiale. Pourquoi ? Parce que la délibération n'a pas pour fin la délibération. Si on délibère, c'est en vue d'une décision. Et la prise de décision, ça impose, à ce moment-là, de faire face un certain nombre de conséquences, parce que ce sont des conséquences qui sont pratiques. Si on décide telle action, si la décision d'accomplir telle action résulte de la délibération commune, à ce moment-là, il faut s'en donner les moyens. Donc ça veut dire qu'en termes d'action, on ne peut pas se contenter uniquement de continuer à prolonger l'expérience de la discussion. C'est plus la délibération qui est à elle-même sa propre fin. C'est la décision. La délibération n'a de sens que si elle est orientée vers une fin qui est la décision pratique. Et à ce moment-là, justement, on se pose d'autres questions. Et c'est ce qui fait que l'expérience de Nuit debout a atteint assez vite des limites. Hein, parce que la délibération n'était pas orientée vers la prise de décision. Et à ce moment-là, ça confronte la prise de décision, ça confronte aux autres qui, en face, prennent d'autres décisions. Mais eux prennent des décisions. Ils ne font que ça, même. Et c'est la raison pour laquelle on doit absolument penser l'expérience de la démocratie radicale comme étant orientée vers la prise de décision et vers les actions qui en découlent pour mettre en œuvre cette prise de décision. Donc on peut dire que c'est ce qui a en effet manqué. Alors pour le dire d'une façon très rapide, trop rapide sans doute, mais ce qui est en cause, c'est la dimension de conflictualité. C'est-à-dire, il n'est pas de démocratie radicale, donc celle des communs ne fait pas exception à la règle. On peut dire que plus encore que les autres formes, elle doit être exemplaire à cet égard. Il n'est pas de démocratie radicale qui n'honore pas, qui ne fasse pas droit à la dimension de la conflictualité. Alors, si on cultive le consensus pour le consensus, on butera très vite sur des limites, y compris en termes de confrontation avec les autres, avec l'adversaire. Bon. Si, en revanche, on est conscient du fait que la conflictualité fait partie du commun, c'est quelque chose qui fait corps avec le commun, ce qui fait que le commun aseptisé qu'on présente comme étant du consensus n'a rien à voir avec la réelle expérience du commun. Notre-Dame-des-Landes, c'est un commun précisément parce que l'expérience de la conflictualité est présente. Elle a même été présente en interne, dans les rapports entre les différentes composantes. Ça n'a pas été sans mal au début, mais c'est ça qui fait la richesse d'un commun. C'était cette espèce de co-construction qui fait qu'il y a un certain nombre de possibilités pratiques qui émergent et qui supposent qu'on prenne les problèmes à bras-le-corps, qu'on ne les fuit pas, qu'on ne les esquive pas. Par exemple, dans le 15e en Espagne, en 2011, il y a eu effectivement une culture du consensus. Et cette culture du consensus, on peut considérer qu'à certains égards, elle a fait obstacle, mais ensuite, fort heureusement, c'est une culture qui a pris un sens beaucoup plus politique. Lorsque, une fois les occupations terminées, des expériences ont été menées dans les quartiers, dans les villes, qui étaient des expériences politiques au plein sens du terme, avec une dimension de conflictualité reconnue. Donc ça a pu être surmonté. Bon, il est à souhaiter que dans l'avenir, la même chose se produise en France. C'est-à-dire qu'il n'y ait non pas répétition pure et simple de Nuit debout, mais une sorte de maturation, c'est-à-dire de prise de conscience que le commun politique ne peut être expérimenté que si on assume par avance la dimension de conflictualité, qui implique que justement on s'affronte à des décisions, qu'on ne fasse pas que discuter pour discuter.
Je voudrais justement revenir sur ce qui caractérise les communs. Le capitalisme, depuis toujours, recycle les idées, recycle les pratiques, hein, y compris les pratiques alternatives. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire. Jérémy Rifkin nous dit que le capitalisme va s'effondrer tout seul sous la pression des pratiques collaboratives, des pratiques transversales, des communautés, des nouvelles entreprises. À Lille, on construit actuellement un espace de coworking sous l'égide de la chambre de commerce qui est complètement marchandisé et on met ça sous le signe des communs. Donc ce qui guette un petit peu les communs, c'est au mieux la dépolitisation, au pire la récupération. Donc j'avais envie de vous demander, Pierre Dardot, de préciser, selon vous, qu'est-ce qui définit un commun, mais un commun dans le sens de la transformation sociale, dans le sens de... du changement de société dans le sens de la sortie du capitalisme.
Alors, les communs, bon, je ne vais pas donner, comme certains le font par exemple en économie, des critères permettant de reconnaître d'authentiques communs de ceux qui ne sont pas d'authentiques communs. Je me méfie de ça, parce que c'est une espèce de critériologie scolastique, j'ai ça en horreur. Mais en revanche, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on peut dégager comme ça, presque inductivement, des expérimentations qui sont en cours. Et là, on remarque qu'il y a un certain nombre de traits, voilà, de caractères ou de traits qui peuvent être relevés. Le premier trait, c'est que les communs sont des espaces institutionnels qui sont construits à partir de l'élaboration collective de règles. Ça, c'est une première chose qui est très importante. Mais les règles ne font pas office de frontières, mais plutôt de limites. Voilà. Ce qui veut dire que l'expérimentation des communs aujourd'hui suppose qu'il y ait des limites, mais non pas des frontières qui excluent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas membre du commun peut venir de l'extérieur et en devenir membre de plein droit à partir du moment où il accepte justement les règles, et non seulement où il accepte, mais où il prend à cœur éventuellement de proposer que les règles existantes soient améliorées, mais par le moyen justement de l'élaboration collective. Donc ça, c'est un point important. Il n'y a pas de commun fermé. Il y a beaucoup de gens qui font appel aux communs médiévaux. Vous savez, les terres vagues et vaines, et les zones de pâturage, etc. Bon, certes, c'est important parce qu'on peut s'en saisir pour faire des analogies, et ça peut servir dans le combat. Mais attention, les communs médiévaux étaient très souvent des communs fermés. On interdisait au type de la paroisse voisine de venir faire paître ses bêtes parce que c'était uniquement les habitants de cette communauté villageoise et pas d'une autre. Or, les communs actuels, justement, sont assez différents. Les communs, par exemple, urbains, ne sont pas exactement ce qu'on appelait auparavant des squats. Ce sont souvent des communs qui sont justement ouverts sur la ville. Des communs qui impliquent par conséquent... la possibilité pour des gens qui ne font pas partie du commun à l'origine de le rejoindre. On voit ça partout dans les communs urbains, mais pas simplement dans les communs urbains, on le voit aussi dans les communs agricoles. Et après tout, s'il y avait eu des frontières au début à Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'est passé ensuite comme brassage n'aurait pas pu intervenir, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Or, au contraire, ce qui fait la richesse d'un tel commun et sa dimension politique, c'est qu'il y a eu ce brassage-là avec des différentes composantes. Justement, ça, c'est pas des frontières. Donc, c'est des limites. Mais des limites institutionnelles, ça veut dire qu'on peut être amené justement à les changer. Il faut que tout commun prévoie cette possibilité de réviser périodiquement les règles qui lui donnent son caractère d'institution. Voilà. Il faut une relance de ce que Castoriadis appelait l'instituant. Il faut qu'un commun ménage la possibilité d'une relance de l'instituant. Dès que ça se fiche sur l'institué, à ce moment-là, il y a une menace. Ça vaut d'une coopérative, ça vaut d'un commun rural, ça vaut d'un commun de production, ça vaut de choses très très différentes. Et puis, il me semble que justement, dans ces communs-là, c'est un autre trait très remarquable, c'est la question de l'usage qui est fondamentale et pas la question de la propriété. J'ai été frappé par le fait que avant-hier, il y a eu une assemblée des usages qui se soit tenue à Notre-Dame-des-Landes. Des usages. Il ne s'agit pas de revendiquer un titre de copropriété. La propriété collective, ou même commune, sans parler de la propriété publique ou d'État, parce que ça c'est autre chose, a souvent servi dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire du socialisme et de ses différentes composantes, de paravent pour justifier un égoïsme collectif. On est à plusieurs, on se partage la propriété, on est propriétaire, avec des parts égales, mais en dehors de nous, personne n'a le droit de décider. On dessine un périmètre, alors lui a des frontières, et pas simplement des limites. Et ça me paraît très important, que ce ne soit pas du tout la voie qu'empruntent aujourd'hui les communs. Pas du tout. Donc cette idée que c'est l'usage et pas la propriété. Que si on est amené à utiliser des formes juridiques de propriété, c'est comme paravent pour construire du commun derrière. Ça se voit dans un certain nombre de cas, des communs agricoles où on est amené à racheter des terres, justement en tant qu'association, mais pour les soustraire à l'échange marchand, ça ne veut pas dire qu'on fait de la propriété collective la solution. Ça veut dire que derrière ces formes juridiques, on permet à des pratiques de mise en commun de pouvoir perdurer, ce qui est tout à fait différent. Et puis donc il y a ce troisième trait qui pour moi est très important, qui est celui donc de la démocratie. Et là encore, la démocratie, en tant qu'elle implique la conflictualité. Donc c'est pas le consensus, c'est pas la recherche du consensus à tout prix, c'est pas la pacification, c'est pas... Moi j'ai horreur de ça, ça me paraît totalement contradictoire avec ce que la politique, au sens véritablement le plus fort et le plus noble du terme, peut avoir comme signification. La conflictualité, la reconnaissance de la conflictualité, ça veut dire qu'il faut pas avoir peur des clivages. Ça veut dire par conséquent qu'il ne faut pas cultiver la discussion pour la discussion. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait à un moment donné une minorité et une majorité. La délibération doit durer le temps qui est absolument nécessaire à son propre développement, mais en même temps, elle doit déboucher, encore une fois, sur les prises de décision, sur des clivages par conséquent, et on ne doit pas, encore une fois, chercher une sorte de prévention des conflits en amont au nom d'un consensus. Ça, pour moi, c'est une manière justement de tourner le dos à la politique. Or, ce qui se passe avec Macron et ses avatars ou ses exécutants, ou on peut les appeler comme on voudra, ou avec le macronisme de manière générale et avec le néolibéralisme, dont il est assez représentatif. Hein. Souvent, les gens font une comparaison entre Renzi en Italie, comment il s'appelle, Justin Trudeau au Canada, le même type de look, le même âge presque, bon. Et puis d'autre part Macron, et c'est vrai que c'est assez représentatif d'un certain type de néolibéralisme. Bon, ça c'est des gens qui cherchent justement à noyer le poisson, c'est-à-dire à vider le commun de toute substance politique. Donc à faire apparaître le commun comme étant une affaire de bonne volonté entre des particuliers qui entrent en relation les uns avec les autres. Non. On dira par exemple qu'il y a l'économie collaborative, on dira que c'est le commun. Peu importe qu'il s'agisse d'Airbnb ou de Uber. Donc on mettra l'ubérisation de la société sur le compte du développement du commun. Ce qui n'est pas un contresens, c'est une confusion qui est voulue. Donc il faut dire que c'est une confusion qui est entretenue délibérément et qui doit être dénoncée. Voilà. Et là, dans ces exemples-là, que ce soit Uber, Airbnb ou autre chose, vous avez des accords de gré à gré ou des contacts de gré à gré entre particuliers qui n'ont rien à voir avec le commun. Il n'y a pas de... co-responsabilité, il n'y a pas de coproduction de règles, il n'y a absolument rien de tel, donc il n'y a rien de commun, voilà. Il n'y a rien véritablement qui puisse être assimilé au commun. Donc ça, c'est vraiment l'illusion mortelle que le néolibéralisme, que le capitalisme néolibéral cherche à entretenir aujourd'hui. Il faut combattre de toutes les manières, de la façon la plus énergique possible, parce que ça, c'est la mort du commun, purement et simplement. C'est l'anesthésie et la mort du commun.
Bien, je voudrais... poser une toute dernière question pour faire un pas de côté, hein, pour parler un petit peu du livre, ou plutôt des auteurs du livre. Pierre Dardoux, vous écrivez avec Christian Laval depuis maintenant très très longtemps. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on écrit des livres à deux? Comment c'est organisé? Dans le concret, comment ça se fait, une écriture à deux mains, à quatre mains plutôt?
Alors, c'est une sorte de commun intellectuel, hein, petit, parce que c'est deux personnes. Donc, ce n'est pas la même chose que des livres collectifs auxquels 10 ou 20 personnes contribuent. Mais c'est une expérience qui est assez enrichissante, parce que au début, ça pose des problèmes. Alors, c'est pas uniquement l'orgueil ou le narcissisme de chaque auteur, mais ça pose des problèmes parce qu'on n'a pas le même style, la même manière d'écrire, et même parfois la même manière de penser. Hein. Donc on a des formations différentes, Christian est sociologue, moi je suis philosophe, donc on a des habitudes héritées justement de la façon dont on a plus ou moins été imprégné par notre période de formation.
Il peut y avoir du conflit alors?
Il peut y avoir du conflit, exactement, il peut y avoir du conflit, et il nous est arrivé sur tel ou tel texte, d'être en désaccord, de prendre le temps nécessaire pour essayer non pas d'harmoniser artificiellement, mais d'aboutir à une entente sur le fond. Et on s'aperçoit que dès qu'on aboutit à une entente sur le fond, à ce moment-là, la question du style, de la forme, de la rédaction devient finalement assez secondaire. Bon. Mais ça n'a pas été sans mal, hein, effectivement. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est presque... Il y a presque, c'est pas un excès de connivence, mais c'est vrai qu'il y a une connivence qui n'est pas que rhétorique, qui fait qu'on s'entend assez vite sur le fond. Et par conséquent, on n'a même plus besoin, comme on le faisait par exemple au début, de dresser un plan. Alors ça, c'est la mauvaise démangeaison des gens qui sont encore trop scolaires, où effectivement on dresse un plan et ensuite on s'attribue les parties respectives. Bon, mais ça, c'est une phase qu'on a complètement dépassée. Donc, en fait, on procède de façon assez libre et désordonnée. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à écrire quelques pages, et l'autre vient se greffer là-dessus. Le cas échéant, remet en question ce qui a pu être écrit, propose d'autres formulations, voire dit « Ah ben, ce texte-là, tu avais peut-être prévu d'en faire la matière d'un chapitre, mais moi, je le verrais autrement, intégré dans un chapitre plus grand, etc. » Et puis, il y a une sorte d'auto-correction ou d'auto-transformation qui s'effectue et qui fait qu'au fur et à mesure, on aboutit à une architecture que aucun des deux, aucun d'entre nous n'avait à l'esprit en commençant. Donc une architecture qui s'élabore au fur et à mesure de l'écriture collective. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et c'est quelque chose à quoi on tient. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'écrira pas l'un ou l'autre des livres isolément, individuellement, mais on tient à ça. On tient à ça parce que pour nous, c'est un acquis intellectuel, un acquis aussi politique. Pourquoi ne pas le dire? Parce qu'on s'habitue à considérer que ce qu'on vient d'écrire ne sera pas nécessairement ce qui sera retenu dans la publication définitive. Et par conséquent, on s'habitue à une sorte de remise en cause de soi-même qui est assez salutaire, qui doit normalement exister dans tout commun digne de ce nom. Alors là, c'est plus facile parce que c'est à une échelle très réduite, mais quand on s'aperçoit que ça ne va pas toujours de soi à une échelle aussi réduite, on se dit effectivement que la conflictualité mérite d'être prise en charge et assumée plutôt que étouffée et reléguée à l'arrière-plan comme c'est assez tentant de le faire parfois.
Et donc il y a quelque chose en préparation?
Ah, il y a quelque chose en préparation, il y a un livre sur la souveraineté de l'État qui nous occupe en ce moment et qu'on est en train de commencer en effet de rédiger, qui est assez important parce que particulièrement en France, il y a beaucoup de gens, alors là c'est une pensée ouvertement polémique que je formule. Certains se reconnaîtront, d'autres pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont attachés, y compris dans la gauche dite critique ou radicale, à cette souveraineté de l'État, qui ne font pas de différence entre des pratiques de souveraineté populaire et la souveraineté de l'État, ce qui est une confusion absolument impardonnable, parce que ça conduit à des conséquences qui peuvent être politiquement désastreuses, alors que nous nous attacherons dans ce livre-là à faire justement le départ entre les deux et à montrer que ça n'a strictement rien à voir. Et il faut remettre en cause la logique de la souveraineté de l'État, parce que la logique de la souveraineté de l'État, c'est celle d'un pouvoir absolu qui est finalement dans le fond, foncièrement homogène au pouvoir du propriétaire sur la chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument remettre en cause.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.